Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle à nier. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette journée, le jour, le jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers des humains? La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon pauvre débarras.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologue, politique, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2. La première partie de cette émission sera internationale avec des prisonniers palestiniens en grève de la faim dans les prisons israéliennes, des nouvelles des prisonniers basques et la situation dans les prisons où l'État grec enferme les migrants et les migrantes. On écoutera ensuite un son sur le parloir, donc cet espace de visite aux détenus à l'intérieur des prisons, et on continuera en deuxième partie avec des enfants emprisonnés dans des prisons prévues pour les adultes, l'expulsion de 1200 sans-abri du parc Citroën à Paris, et une messagerie cryptée suisse qui a fourni des informations sur des militants écologistes à la police française. Et on terminera avec une annonce. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission, si vous le souhaitez, au 05 61 53 36 95. Nous sommes en direct le jeudi de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 17h à 18h.
Here come the time to demand it. The time to come the time.
Que 9 prisonniers palestiniens avaient entamé une grève de la faim dans les prisons israéliennes pour obtenir leur libération. Trois de ces prisonniers ont suspendu leur grève de la faim après avoir obtenu la fin de leur détention administrative et une date de libération. Ce sont Mohamed Amar de Tulkarem, Amjad Namoura de Dura près d'Al-Khalil et Fadi Al-Amour d'Al-Khalil. Donc déjà, on peut se poser la question de ce qu'est la détention administrative. Hein. Donc en Israël, ça a été utilisé pour la première fois en Palestine, donc par le mandat colonial britannique, puis adopté par le régime sioniste. Elle est désormais utilisée de manière routinière pour cibler les Palestiniens, en particulier les dirigeants communautaires, les militants et les personnes influentes dans leur ville, camp et village. En fait, ça signifie qu'on peut enfermer une personne pour une durée indéterminée sans qu'il y ait eu aucun procès. Il y a environ 540 Palestiniens emprisonnés, donc sans inculpation ni procès en détention administrative, sur les 4850 prisonniers politiques palestiniens. Ces ordres sont émis par l'armée et approuvés par les tribunaux militaires sur la base de preuves secrètes dont les détenus palestiniens et leurs avocats n'ont pas connaissance, donc évidemment ils ne peuvent pas se défendre. Ils sont délivrés pour une durée maximale de 6 mois, mais renouvelable indéfiniment. Les Palestiniens, y compris les enfants mineurs, peuvent passer des années en détention administrative sans inculpation ni procès. Le mercredi 11 août, les Palestiniens de Gaza ont manifesté devant le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Gaza pour soutenir les grévistes de la faim. Ils ont demandé que les institutions internationales assument leurs responsabilités en protégeant les détenus palestiniens et en demandant aux responsables israéliens de rendre des comptes devant les tribunaux internationaux. Alors, qui sont ces 9 grévistes de la faim ? D'abord, il y a Salem Sedat, qui a 40 ans, qui est originaire d'Hébron, qui a commencé sa grève de la faim le 15 juillet, qui est emprisonné sans inculpation ni procès depuis le 22 février 2020. Il est marié, père de 5 enfants. Il est détenu dans la prison du Negev. Il y a Mujahed Hamed, qui est originaire de Ramallah. Il a commencé sa grève de la faim le 17 juillet. Il est détenu depuis le 22 septembre 2020. Il est marié, père d'un fils qui n'avait qu'un mois lorsqu'il a été arrêté à son domicile. Il est également emprisonné à la prison du Negev. Ensuite vient Kayed Fasfouz, qui est âgé de 32 ans et originaire d'Hébron. Il a commencé sa grève de la faim le 17 juillet. Il est détenu sans charge ni procès depuis octobre 2020 et emprisonné à la prison de Ramon. Rafat Darawish a lui 28 ans, il est originaire d'Hébron, il a commencé sa grève de la faim le 18 juillet, il est détenu depuis octobre 2020 sans charge ni procès, il est marié et souffre de problèmes de santé, il est incarcéré à la prison de Ramon. Migdad Kawashmesh est âgé de 24 ans, originaire d'Hébron, il a commencé sa grève de la faim le 24 juillet. C'est un étudiant palestinien qui est emprisonné sans charge ni procès depuis janvier 2021 à la prison d'Ofer. Youssef Alamer a 28 ans, il est originaire de Jenin. Il a commencé sa grève le 2 août. Il a précédemment lancé une grève de la faim contre sa détention administrative. Il est emprisonné depuis juin 2020 et a été condamné à un an de prison. À la fin de sa peine, il a été transféré en détention administrative en mai 2021 au lieu d'être libéré. Amrad Amamra, originaire de Beit Sahour, a commencé sa grève de la faim le 4 août. Il est emprisonné sans charge ni procès depuis le 17 août 2020 et a précédemment participé à la grève de la faim collective de 2017 alors qu'il était détenu. Akram Fasfouz, âgé de 38 ans et originaire d'Al-Khalil, a lancé sa grève de la faim le 9 août. C'est le frère donc de Kayed Fasfouz, qui est lui en grève de la faim depuis le 18 juillet, et de Mahmoud Fasfouz, qui était auparavant en grève avant de la suspendre en raison d'une grave détérioration de sa santé. Il est incarcéré sans inculpation ni procès en détention administrative depuis octobre 2020. Il est marié et père de 4 enfants. Ala Al-Araj, âgé de 34 ans et originaire de Tulkarem, a lui lancé sa grève le 12 août. Il est incarcéré depuis le 30 juin sans inculpation ni jugement en détention administrative et est détenu à la prison de Megiddo. Donc, ces informations, on les a obtenues via un réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens qui s'appelle Samidoun. Mais depuis fin août, nous n'avons pas réussi à avoir de nouvelles informations. Mais nous tenions à la relayer parce que les prisonniers et prisonnières palestiniens et palestiniennes se mettent régulièrement en grève de la faim pour protester contre leur enfermement. Et ce sont des informations qui parviennent assez difficilement jusqu'à nous. Donc quand on les a, on aime bien les partager avec vous.
Voilà, on va passer à un autre pays, le Pays Basque. En fait, avec des prisonniers qui sont en prison depuis bien, bien longtemps et qui le sont aussi en France. Jacques El Esnal, Yon et Unai Paro, originaires du Pays Basque Nord, donc sont incarcérés depuis avril 1990, c'est-à-dire depuis plus de 31 ans. Alors Jacques Esnal attend toujours à la prison de Lannemezan le résultat de son recours en cassation concernant le rejet sur appel du parquet de sa demande de libération conditionnelle. Yon Paro, lui, est détenu à Muret. Il a passé 6 semaines au Centre national d'évaluation de Aix-Lune pour évaluer sa dangerosité et il attend une audience pour l'examen de sa 6e demande de libération conditionnelle qu'il a déposée en juillet 2020. Unai Paro, lui, est détenu en Espagne et il a été transféré de la prison de haute sécurité de Puerto 3 en Andalousie pour se retrouver au centre pénitentiaire de León, qui se situe à 370 km du Pays Basque. Et il a été confiné pendant 12 jours, puis il a passé d'un module 9, 4, puis 7, ce qui actuellement lui donne un statut de second grade et qui lui permet quelques activités. Et ainsi, il a retrouvé un terrain de sport et il raconte « Après 31 ans où je n'ai marché que sur du ciment plat, j'avais des difficultés au début à marcher sans trébucher sur une superficie de sable. Il fallait que je regarde le sol sans arrêt. » Alors, les visites de 40 minutes se font à travers une vitre blindée par téléphone, sans porte ni séparation entre les détenus, et l'ambiance donc est très bruyante. Il n'a pas de vis-à-vis de 2 heures depuis longtemps, car après chaque vis-à-vis, précaution Covid, eh bien, il faut qu'il reste confiné 10 jours dans une autre cellule que celle habituelle, avec un minimum d'affaires. Pour téléphoner, il n'y a que 2 cabines pour 60 à 80 détenus, et donc il faut parler fort pour couvrir la conversation du voisin. Un point positif dans ces nouvelles conditions, depuis début août, il a commencé un stage en boulangerie. Unai bat certainement le record du plus ancien prisonnier en Espagne, plus de 31 ans, sans sortie, sans la moindre permission, et cela de manière continue. Donc pour Jacques, Yon et Unai, cette détention n'a que trop duré. Ça n'a plus aucun sens. Après 10 ans après le cessez-le-feu et la déclaration d'Haïti, et 3 ans après la dissolution définitive de ETA. Donc le temps presse et c'est une campagne de mobilisation qui est lancée par Bakebidea et les artisans de la paix et qui disent que vraiment c'est trop et qu'il serait temps qu'ils sortent de prison.
Alors on va parler d'autres gens enfermés, mais cette fois-ci en Grèce, donc dans des centres de traitement des situations et d'études des demandes d'asile. Donc ces centres ont été créés en 2015 et la plupart sont gérés en sous-traitance avec des subventions européennes. On les trouve avant ou après les portes d'entrée de l'Europe, notamment dans les îles grecques, qui ont l'immense avantage d'être isolées et isolables, car dans les faits, ce sont de véritables prisons. Un rapport de Médecins Sans Frontières, intitulé « Constructing Crisis at Europe's Borders », qui signifie à peu près « Créer la crise à la frontière européenne », le confirme, et il a la particularité de faire un bilan médical précis des 5 ans d'intervention de l'ONG dans les camps grecs. Les problèmes soulevés sont accablants. Les besoins primaires, surtout d'eau et aussi de nourriture, ne sont pas garantis. Médecins Sans Frontières a d'ailleurs dû trouver des camions-citernes pour réapprovisionner le camp de Vati sur l'île de Samos. La précarité est partout, notamment dans le logement, qui se fait dans des conteneurs mal isolés, trop petits. Des familles sont séparées, et surtout, la peur de l'expulsion est partout, nourrie par des temps d'attente et de réponse à la demande d'asile extrêmement longs. Conséquence de tout cela, Médecins Sans Frontières doit traiter de nombreux problèmes mentaux, comme les dépressions, les angoisses et le stress post-traumatique. Rien qu'entre 2019 et 2020, il y a eu 200 automutilations ou tentatives de suicide, dont 2/3 concernaient des enfants. Mais aucune autorité ne semble vouloir réagir, et à l'inverse, la militarisation de la frontière se poursuit. Pour preuve, le gouvernement grec de droite a décidé la construction d'un mur d'acier de 40 km de long au niveau du fleuve Ébros qui fait la frontière avec la Turquie. Donc quand le président américain Trump voulait faire un mur entre le Mexique et les États-Unis, qui est quand même relativement loin de nous, on en entendait parler, mais qui a entendu parler de ce mur que l'État grec veut construire entre lui et la Turquie? Bref. Autres immigrants, des canons sonores. Donc ces canons sont montés sur des véhicules blindés et peuvent diriger un son de même niveau que celui d'un moteur à réaction. Ça provoque un étourdissement, des nausées, voire des problèmes auditifs à long terme. Cette arme, qui appartient à la nouvelle catégorie dite non létale des Long Range Acoustic Device, est déjà utilisée aux États-Unis, Canada et en Grande-Bretagne. Donc ça veut dire qu'ils vont faire quoi? Ils vont utiliser ces appareils pour remettre les... pour refoutre les gens à l'eau. Fin...
C'est pour terroriser les gens, pour les rendre malades. Et quant à ce mur, c'est vrai que tu as raison, parce que quand même, c'est un mur qui se construit en Europe, puisque la Grèce, c'est pas comme, non seulement c'est pas loin, mais ça fait partie de l'Europe, et on n'en entend pas parler.
Et un mur de 40 km, c'est quand même pas rien.
Pas rien. On souffle.
It's too late to make me change. I will die with that flame which drive me out with no complaint, no fear, no pain. As long as the dream of a better hour still going on, but please tear with me and don't. The light that's waiting.
on poursuit l'émission avec un enregistrement réalisé par Slate Audio. C'est Karim qui a passé 8 mois en prison et qui témoigne de plusieurs situations. Là, on a choisi la situation du parloir. Alors, il faut dire que dans ces épisodes et organisés, il y a 6 épisodes qui s'appellent Le Système et qui parlent de cette condamnation de Karim. Mais Slate a cru bon de croiser la parole en donnant la parole aussi à une procureure, Valentine, à une surveillante pénitentiaire, Sophie, à une directrice de SPIP, Émilie. Et là, dans le parloir, on entendra Mathilde, la sœur de Karim. Voilà, donc les paroles de la procureure et de la surveillante n'engagent bien sûr qu'elle. Et elles croisent leur témoignage avec celui de Karim. Et là, c'est sur les parloirs. Donc, normalement, ça devrait marcher.
Amant dans le système.
Je m'appelle Karim, j'ai fait 8 mois dans une maison d'arrêt.
La violence là, qui est en ce moment dans les prisons, elle est vraiment folle. Comment te dire, moi, le fou que j'ai eu en cellule, j'ai eu un fou, un mec arrivé. J'étais sur mon lit, je vois qu'il prend un verre, il le pète sur la tête de mon pote. Après, il pète une assiette. On a dû l'attacher, lui mettre plein de coups de fourchette dans les jambes, tu sais, pour le calmer.
Émilie Martin, je travaille dans la réinsertion des personnes condamnées, soit à l'extérieur, soit en milieu carcéral. À partir du moment où tu recrutes 2 à 3 promotions de surveillants à 1000 à 1100 personnes par an, tu as dans le lot des personnels corruptibles, tu as des personnels violents, tu as des personnels pas très humains.
Et puis les matons, c'est plus les mêmes. On voit que ça a baissé, le recrutement des matons a baissé. Ils sont cons comme des bites.
Le mec qui est payé 1500 ou 1400 euros hors heure sup pour faire ce taf-là, mais moi, je le fais pas. Faut pas déconner. Pour te faire insulter, cracher dessus, parler comme une merde les 3 quarts de la journée.
J'ai vu des mecs se faire trancher de l'oreille jusque tout le bras. Hein, et se faire ouvrir la joue. Quand tu voyais les dents.
Un jour, mon père m'a raconté une anecdote. Il était en déplacement pour le boulot et il aperçoit un mec qu'il a déjà vu. Sa tête lui parle. L'autre aussi reconnaissait mon père et il cherchait où est-ce qu'on s'est déjà vu. Un meeting dans telle ville ou un truc comme ça et tout. Non, ça cherche. Il voit pas. Et d'un coup, mon père a un éclair de génie et il réalise que, en fait, c'est une personne qu'il a déjà croisée régulièrement le samedi matin au parloir.
Je m'appelle Mathilde et je suis la sœur de Karim.
T'es content, cette petite bouffée d'oxygène. Ah, le parloir, ça te regonfle une semaine. Ah ouais. Le parloir, surtout quand t'es condamné, t'as un parloir semaine. Quand t'as un mandat de dépôt, t'en as 3. Là, t'as ton parloir, t'es content. Ouais. Le parloir, ça te regonfle. Hein.
Et je regarde sur Internet quelles sont les démarches à faire pour avoir un droit de visite. Mes parents, eux, avaient déjà lancé les démarches, je sais pas, 1 ou 2 jours avant, enfin dès qu'ils l'ont su, quoi. Donc mon père me dit, t'as ce papier à remplir, le numéro d'écrou de ton frère, c'est ça, et tu l'envoies à la prison où il est incarcéré, et tu attends. Et tu recevras un courrier avec la décision. Donc j'ai rempli ces papiers. Le truc, c'est que avec mon frère, on n'a pas le même papa. On te demande ton positionnement par rapport aux détenus. Moi, j'avais mis sœur. Mais on n'a pas le même nom de famille. Il a fallu que je fournisse des actes de naissance pour prouver qu'on avait bien la même mère. En gros, pour avoir un permis, je pense que ça a mis 1 mois et demi, 2 mois.
Ben déjà, à 7h du matin, on te dit ton nom, parloir famille. Donc tu sais que tu as 1h30, 2h pour te préparer. Tu te prépares, tu te remets sur ton plumard et tu attends qu'on vienne te chercher.
En gros, quand tu arrives, il faut que tu sois là au moins 1 demi-heure avant, pour pouvoir passer les différentes étapes avant d'arriver au parloir. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait 45 minutes avant. Comme ça, déjà, tu peux t'inscrire pour les prochains parloirs. T'as le temps de fumer une clope si tu veux, prendre un petit café, machin. Et ensuite, tu as un casier où tu déposes tous tes objets métalliques, portables, clés de bagnole. Enfin, en général, nous, on mettait le sac à main. C'est comme un casier de collège ou de piscine. Hein. Tu mets ton petit code et tu rentres dans le premier sas du parloir. Donc là, toutes les familles rentrent. On est collés serrés tous ensemble. Et on est devant le détecteur de métaux, une espèce de portail comme les aéroports, en gros. Et on appelle les visiteurs par ordre alphabétique en fonction du nom de famille du détenu. Mes parents ont, entre guillemets, la chance de vivre près de la maison d'arrêt, de pouvoir venir tous les samedis. Mais cette maison d'arrêt, il y a des gens qui s'y rendent, ils viennent, ils font 5 heures, 6 heures, 7 heures de bagnole, ils dorment à l'hôtel pour une demi-heure. Et les gens peuvent se faire priver de parloir pour un oubli. Si tu sonnes, il faut qu'on trouve ce qui sonne pour que tu le retires. Des surveillants disent en gros, vous avez 3 chances. Si vous sonnez les 3 fois, c'est foutu, pas de parloir. Parfois, dans l'émotion des premiers parloirs ou des choses comme ça, tu peux oublier tes clés de voiture sur toi, ta ceinture, t'as pas vu que tes chaussures elles avaient une boucle en métal, tu sonnes une fois... T'enlèves tes pompes ou ta ceinture, ça passe sur le tapis roulant, on check que tout va bien, et ensuite tu peux rentrer ou pas.
Les visiteurs, on va leur mettre des surveillants qui ont le sourire un peu sud-ouest, un peu déconne, tu vois. Les durs à cuire, les surveillants du mitard, tu les verras jamais au parloir. Parce qu'au mitard, c'est d'autres surveillants.
Par contre, tu peux avoir des surveillants qui ont une envie d'excès de zèle, peut-être. Et si tu sonnes une fois, tu t'en vas. Ce qui s'est passé pour ma mère, par exemple, une fois, c'est qu'elle a passé le portique, elle a sonné, elle s'est rendue compte que c'était son soutien-gorge. Et le surveillant lui a dit « dehors ». Tous les portails sont gérés par des clés, il y a des barbelés. Moi, ça m'a impressionnée. Je me sentais un peu comme dans un film la première fois que j'y suis allée. On traverse une première cour. Et puis ensuite, on nous restocke dans une salle décorée. Je ne sais pas s'ils veulent donner une impression de foyer rural. Voilà ce que des détenus ont fait. Ils n'ont pas une fresque et on attend dans cet environnement-là avec quelques chaises. C'est vraiment une salle d'attente un peu cracra. Ensuite, il y a un autre surveillant qu'on n'a pas encore vu qui ouvre la porte, qui appelle chaque famille. J'en sais rien, Monsieur Dupont, parloir 1, Madame Michel, parloir 2.
Là, tu vas dans une salle d'attente. Après, on t'amène au bâtiment des parloirs. Là, on te met un truc, tu sais, les trucs qui mettent en boîte fluo, tu sais, sur les mains, sur les poignets. T'as ça, le passage des mains, des empreintes digitales, et puis on t'attribue une cabine et ton parloir, il est là.
On rentre dans une petite pièce. Il y a une table et 3 ou 4 chaises dispo, en plastique. La table est vissée au mur. On rentre, on attend 5-10 minutes que la porte s'ouvre de l'autre côté et qu'on puisse voir enfin le détenu qu'on est venu visiter.
T'attends rien, t'attends les nouvelles, tchatcher, voilà. Et... te remonte le moral, voir ta famille avec le sourire, déjà c'est cool. Hein. C'est vraiment bien le parloir. Hein. On se rend pas compte, ces petits 3 quarts d'heure là, ils font vraiment vraiment du bien.
Au tout début, on parle vraiment de tout et de rien, du quotidien. On évite même presque un peu le sujet. Parce qu'il est enfermé toute la journée et qu'on se dit qu'il a autre chose à penser et que s'il veut le mettre sur le tapis, il le fera tout seul. Un parloir, c'est très court, c'est une demi-heure. Donc on va pas se foutre la tête dans le caca dès les premières demi-heures où on se voit.
Même si t'as pas envie, même si ton petit il a fait de la merde, il faut remonter le moral. Ouais. Pas parler des trucs de merde de suite. Faut pas l'accabler, faut pas lui dire oui, t'aurais pas dû faire ça. Enfin, t'essaies de parler de trucs légers, limite tu fais exprès de parler de trucs à côté. Et après, au fur et à mesure, t'abordes les trucs importants. Mais au départ, il faut remonter le moral. Parce qu'un parloir qui se passe mal, c'est une semaine où t'es mal après en cellule. Officieusement, on peut te faire passer des téléphones, de la douve et du shit. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Même des paquets de cigarettes là, dans des cellophones, ils les mettent là. Et c'est, après, c'est toi et ta chance.
Et donc une fois, c'est le début d'un parloir. On attend dans ce deuxième sas. Les familles ont déjà déposé les sacs. Et il y a une dame qui est appelée par un surveillant. Et donc quand quelqu'un est appelé par un surveillant et qui revient dans le sas, on est un peu une team. On check si tout va bien. Parce que c'est peut-être un parloir qui s'annule, quelque chose qui est refusé, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va être mal vécu, alors que c'est un moment un peu de tension parce qu'on attend de rentrer dans le parloir. Et donc un jour, une dame est appelée, elle revient, elle est hyper mal, et en fait, on comprend qu'elle avait ramené les lunettes de son fils, qui était donc en détention, et qu'on lui refuse, qu'on ne peut pas transmettre cette paire de lunettes, que ça ne fait pas partie de la liste des objets autorisés et qu'il lui faut, je crois, une ordonnance médicale qui prouve qu'il a besoin de lunettes et que c'est bien ses lunettes, etc. La femme était hyper mal. Il y a d'autres mamans qui se sont rapprochées d'elle pour lui demander comment ça allait. En gros, elle explique que voilà, elle peut pas amener les lunettes de son fils, qu'elle les avait, qu'il voit rien sans ses lunettes, que ça fait quelques jours qu'il est en détention, qu'il est myope et que c'est mort. Et là, il y a là, cette espèce de solidarité qui se joue et les bons conseils. Presque unanimement, les dames lui disent « Mais la prochaine fois, prenez les lunettes de votre fils, vous les mettez sur votre nez et vous lui donnez au parloir. »
Je m'appelle Sophie, je suis surveillante pénitentiaire. Alors, je pense que la moitié d'entre nous ont un compagnon ou un mari ou une femme qui fait le même métier. Parce qu'on passe le trois quarts de notre temps au travail et que c'est là où on fait le plus de connaissances. C'est là où on est très, très nombreux. C'est là où on se voit tous les jours, où on crée des liens entre collègues. Certains collègues ne voulaient surtout pas ou ne veulent surtout pas être justement avec quelqu'un qui fait le même travail.
Je m'appelle Valentine, j'ai 33 ans et je suis magistrat. À part les gens qui vivent notre réalité, il n'y a pas grand monde avec qui partager ça. Et moi, c'est peut-être ça que je trouve difficile. C'est d'avoir l'impression de porter un regard sur le monde tel qu'il est et qu'il n'y ait pas forcément de place pour en parler au-delà qu'un fait divers qui va intéresser les gens. Et puis au-delà de ça, entendre parler de ce que c'est réellement les violences conjugales ou ce que c'est un homme violent, par exemple. Qu'est-ce que c'est un homme violent? Ça, ils n'ont pas envie de rentrer dans cette nuance.
Bah, le meilleur moyen, quand on est avec une personne qui fait le même travail, c'est de pouvoir en parler à la maison, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a forcément parfois des tracas, des soucis, des préoccupations, et de pouvoir partager, avoir d'autres points de vue, tout lâcher, en fait, même si c'est juste pour écouter, hein. Et ça permet justement de décompresser. Par contre, ne pas en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand il y a des soucis, oui. Mais pas forcément tout le temps non plus. Parce que je pense qu'au bout du compte, ça bouffe.
En fait, je me suis vue à chaque fois qu'on avait une vie sociale pendant ce moment à raconter. Ah, et là, aujourd'hui, j'ai eu ça. Et mon mari a dû me dire à un moment... Écoute, Valentine, je crois que tu te rends pas compte, mais il faut pas que tu fasses ça parce qu'en fait, les gens, tu te rends pas compte comme ça. Toi, tu as besoin d'en parler, mais les gens, en fait, ils veulent pas entendre ce que tu veux. Ils veulent pas entendre qu'il y a des gamins qui vont toquer chez les voisins parce que, en fait, leur mère leur fait pas à manger, qui finissent par toquer chez les voisins, mais qui prennent la précaution de pas toquer chez les mêmes voisins tous les soirs parce qu'ils savent très bien que si la police vient, ils vont être séparés de leur maman. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas entendre, ils veulent pas entendre.
Il y en a qui n'ont pas de parloir du tout. Donc, les clandos, ils n'ont pas de parloir. Les clandestins, ils n'ont pas de parloir. Pas de parloir du tout. Ils ne voient personne. Personne ne vient les voir.
Honnêtement, il y a des moments où je pleure toute seule dans mon bureau parce que... Juste parce que parfois, c'est trop dur. On gère trop de souffrances humaines. On ne gère que ce qui dysfonctionne, on n'entend que ce qui dysfonctionne. Alors ça va être une histoire sordide d'enfant avec ses parents, ça va être une histoire de chien laissé mourir dans un appartement tout seul, qui a commencé à manger les meubles tellement il avait faim. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais il y a toujours un moment où je sens que c'est beaucoup à gérer. Enfin, j'essaie d'être au clair sur le fait, oui, c'est beaucoup à gérer. Et c'est d'autant plus difficile à gérer que en parler en dehors de notre cercle, en fait, c'est assez compliqué parce que ça fait rentrer les gens dans une réalité dont ils n'ont pas envie de parler.
Il y a 10 ans, j'étais encore à la fac. J'avais absolument pas envie de partager le fait que mon frère soit en prison, non pas par honte, mais parce que j'avais pas du tout envie que ça devienne un sujet au moment où moi j'avais pas envie d'y penser. Je me définis pas comme secrète, mais j'aime bien que mes trucs perso restent perso tant que j'ai pas décidé l'inverse, on va dire.
Du coup, on en parlait en famille, mais bon, pas avec toute la famille, puisqu'il y avait des membres qu'on protégeait un petit peu de la nouvelle, comme par exemple les grands-parents, ou encore mon neveu, le fils de Karim.
Non, j'espère que mes enfants feront autre chose, franchement. Après, oui, je l'ai recommandé. D'ailleurs, mon frère, il y est. Il a passé le concours et il y est. Il n'est pas si mécontent. Les débuts ont été durs parce qu'il a atterri sur Paris. mais à l'heure actuelle, il n'est pas insatisfait de son travail. Et puis, c'est un travail... vous êtes fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire que vous ne vous retrouverez pas au chômage du jour au lendemain. Donc, je l'ai déjà recommandé à plusieurs personnes, oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'on espère toujours de nos enfants qu'ils feront autre chose que ce qu'on fait nous. On verra bien. De toute façon, dans notre entourage, on le conseille tôt ou tard à quelqu'un, oui, qui a peut-être besoin d'un travail stable ou qui se cherche ou passe-le le concours, pourquoi pas, tu verras bien. Et puis, il y en a à qui ça plaît énormément, ce travail-là. Il faut dire aussi que c'est pas surveillant pénitentiaire, c'est pas un travail qui déplaît. Ma maman, je me rappelle, la première fois qu'elle m'a vue en uniforme, ça lui a fait drôle. Elle était très étonnée, comme si elle ne me reconnaissait pas. Ça lui a fait drôle. Après, je ne me rappelle pas si elle m'avait dit quelque chose. Mais je sais que ça lui a fait drôle, ouais. On avait pris des photos, je me rappelle. Elle et moi toute seule, je prenais la pose et tout. Oui, ça, je me rappelle, ouais. Ça lui a fait bizarre.
Cette année, je crois que je ne l'ai pas annoncé. Parce qu'aucun intérêt. Mais quand les gens me posaient des questions et me demandaient des nouvelles de Karim, je disais, ça va pas très bien. En ce moment, il est incarcéré. Il est en maison d'arrêt. Oui, cette année, il y a eu des regards un peu compatissants, mais je suis assez âgée et assez mûre par rapport à la première fois pour me dire que les gens me renvoient leurs sentiments et peut-être qu'ils s'imaginent, eux, si leur frère était incarcéré, qu'est-ce qu'ils pourraient ressentir, s'imaginer que c'est dur, etc. Et donc, sans faire de la pédagogie, mais des fois, j'avais la motive pour expliquer comment ça allait, comment je le sentais, que je n'étais pas au bout du rouleau, que ce n'était pas évident, mais que... il fallait que la vie continue à côté. Même pour lui, pour pouvoir lui apporter une compagnie agréable au moment des parloirs, des courriers un peu sympas.
Ah, les courriers, non. Les courriers, c'est cool aussi. Pareil, ça regonfle. Ça regonfle parce qu'il faut répondre, donc ça te prend du temps un peu. Du temps de pli sur Hanouna.
Le dernier mois et demi de parloir, ça fait qu'il en reste que 4 ou 5, quoi. On parle évidemment de la sortie. Et on essaie de voir plus comment lui l'envisage, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, il en est où, quelles sont les démarches éventuelles qu'il va y avoir à faire, etc., pour essayer de préparer le terrain pour la suite.
Vous venez d'écouter Le Système. Un podcast d'Élise Costa et Mathilde Largetot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. We'll be right back.
Dans les textes de loi, les mineurs ne peuvent pas être enfermés avec des adultes. Pourtant, beaucoup de mineurs non accompagnés sont détenus avec des adultes. Dans un climat de suspicion grandissant, leur minorité est contestée depuis leur prise en charge jusqu'à leur incarcération, au détriment de leur protection. Adama est incarcérée à la maison d'arrêt pour hommes de Paris La Santé depuis février 2021. À l'instar de nombreux jeunes migrants en prison, il a commis un délit de survie motivé par sa situation de grande précarité et d'isolement. Il n'a que 16 ans, mais comme beaucoup de mineurs non accompagnés, il peine à faire reconnaître sa minorité. Avant son passage devant le tribunal correctionnel, il a été estimé majeur sur la base d'un test osseux, malgré la copie de son acte de naissance qu'il indique né en 2005. Comble de l'absurdité, c'est avec cette même date de naissance qu'il a été enregistré par le greffe de l'établissement pénitentiaire. Dès les premières semaines de son incarcération, la direction de la prison est alertée sur la situation d'Adama par sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et les juristes au point d'accès au droit. Au début, c'était très difficile, il pleurait tout le temps. La chef de bâtiment l'avait mis avec un co-détenu avec lequel il n'y avait pas une grande différence d'âge pour que la détention se passe au mieux, raconte Julie Guillot, coordinatrice du point d'accès au droit de Paris La Santé. Sur les conseils de son avocate, Adama décide de faire appel de sa condamnation en soulevant l'incompétence du juge afin d'être reconnu comme mineur et jugé comme tel. Dans l'attente de ce nouveau jugement, les professionnels qui entourent Adama, toujours en détention chez les majeurs, entreprennent les démarches nécessaires afin d'obtenir l'original de son acte de naissance avec l'aide de sa famille restée dans son pays d'origine. La situation d'Adama est loin d'être isolée. Cet hiver, l'Observatoire international des prisons a été alerté à 2 reprises de la présence de jeunes détenus de nationalité étrangère se déclarant mineurs mais écroués en tant que majeurs. À Bordeaux-Gradignan, un intervenant extérieur racontait « Un jeune Guinéen est incarcéré depuis février à la maison d'arrêt des hommes. Le hasard m'a amené à apprendre de l'administration pénitentiaire qu'il est né fin 2003. Il n'a donc pas 18 ans. En discutant avec différentes personnes, j'ai appris que plusieurs détenus sont dans ce cas. À la prison de la Santé, les intervenants du point d'accès au droit dressent un constat similaire. Nous recevons de plus en plus de jeunes, qui se disent mineurs et qui en ont vraiment l'air, mais ils n'ont pas de papier et sont incarcérés à la maison d'arrêt des hommes. Ces 2 derniers mois, nous en avons reçu 5. Les mineurs non accompagnés sont de plus en plus nombreux à fuir leur pays et à rejoindre la France par les routes terrestres et maritimes dans des conditions traumatisantes. Lorsqu'ils poussent les portes de l'aide sociale à l'enfance, ils sont soumis à une procédure d'évaluation de la minorité et de l'isolement qui prévoit d'examiner la combinaison d'un faisceau d'indices. Mais dans les faits, les décisions sont prises sur la base d'éléments qui sont tous plus fragiles les uns que les autres, souligne Jean-François Martini, chargé d'études au GISTI. Certains départements pratiquent une politique particulièrement sévère dans la reconnaissance de minorités. Dans la mesure où ils estiment que la situation des mineurs non accompagnés leur coûte très cher et leur pose problème, la soi-disant évaluation bienveillante se transforme dans la plupart des départements en cellules de tri, avec des taux de refus très importants, de l'ordre de 60% au niveau national et de 100% dans certains départements, précise-t-il. Ainsi, dans le cadre de l'évaluation de leur âge, un ou plusieurs entretiens peuvent être menés. On se rapproche de plus en plus de dispositifs existants pour les demandeurs d'asile. Raconte-moi ton histoire et je te dirai si tu mens ou pas. Cet entretien est aussi l'occasion pour le service évaluateur d'estimer si le physique du jeune semble correspondre à l'âge déclaré. C'est un élément d'évaluation extrêmement subjectif, détaille le juriste. Les documents d'état civil, quand il y en a, sont examinés et leur authenticité très souvent contestée. Ce qui pose un vrai souci au niveau de la souveraineté des États, souligne Violaine Husson, responsable des questions genre et protection à la CIMADE. Lorsque le document est probant, on remet de plus en plus en cause son appartenance à l'enfant qui le produit parce qu'il n'y a pas de photo. Enfin, les associations d'aide aux migrants témoignent d'un recours croissant aux tests osseux, dont elles dénoncent régulièrement, avec une grande partie du corps médical, des professionnels de la justice et le défenseur des droits, le manque de fiabilité. Selon le cadre légal, ce test ne peut intervenir qu'en cas de doute persistant. Pourtant, les autorités ordonnent sa réalisation, quand bien même le jeune n'a pas donné son consentement et qu'il a un document d'état civil. Elles y ont aussi recours par facilité. Lorsqu'il n'y a pas de papier ou que ceux qui sont produits ne sont pas jugés assez probants, le rassemblement des documents peut être très long, alors que le test osseux est beaucoup plus rapide pour écarter la présomption de minorité. Par ailleurs, en amont de l'évaluation et de l'éventuelle prise en charge, le fichage biométrique des mineurs non accompagnés se développe. Depuis 2019, leurs coordonnées, empreintes et photos sont recueillies et enregistrées dans un fichier d'assistance à l'évaluation des mineurs, adopté par la plupart des préfectures. C'est l'occasion pour le préfet de vérifier si le jeune qui se présente n'est pas enregistré dans d'autres fichiers concernant les étrangers, en particulier dans le fichier VisaBio. Pour ceux qui ont d'abord tenté de rentrer en Europe en utilisant l'identité d'un proche majeur, ils sont enregistrés comme tels et se voient donc refuser leur demande de protection. J'ai suivi par exemple un jeune qui sortait de prison, condamné sous l'identité d'une personne de 35 ans, alors qu'il avait très visiblement moins de 20 ans. Il avait tenté de voyager vers la France avec le passeport de son père. Sa demande de visa ayant été refusée, il a fait la traversée par d'autres moyens. Quand la préfecture a fait une recherche à partir de ses empreintes, elle est tombée sur l'identité de son père, sous laquelle il a été condamné, raconte Jean-François Martini du Gisti. Le recours à ce fichier soulève un autre problème, les empreintes sont prises en préfecture ou en commissariat. Les enfants qui ont subi des violences par certains douaniers, policiers ou militaires pendant leur parcours migratoire craignent d'y aller. Ceux-là préfèrent donc souvent renoncer à se présenter à l'aide sociale à l'offense. Or, lorsque leur minorité n'a pas été évaluée, les mineurs non accompagnés font bien souvent l'objet d'une présomption de majorité. En tant qu'avocate, j'ai vu des dossiers dans lesquels une date de naissance avait simplement été attribuée à l'intéressé en garde à vue, faisant de lui un majeur, ajoute Hélène Martin-Cambon, coordinatrice de la plateforme Info MIE et ancienne avocate. Il arrive parfois que la procédure pénale se déroule sans que la question de la minorité ne soit jamais soulevée. Et ce, d'autant que ces jeunes migrants sont le plus souvent jugés dans le cadre de procédures rapides, les comparutions immédiates, et condamnés sans que l'on se questionne sur leur histoire et sans avoir d'espace pour la raconter. Au total, ils subissent une politique pénale extrêmement répressive pour les délits qu'ils commettent. Cette logique a pu aller jusqu'à systématiser la remise en cause du statut qui leur avait pourtant été reconnu, comme ce fut le cas en 2016 d'une trentaine de jeunes migrants non accompagnés dans l'Hérault. Bien que reconnus mineurs et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ils avaient été par la suite condamnés pour faux et usage de faux, après mise en doute de l'authenticité de leurs documents d'état civil et réalisation de tests osseux et incarcérés. Ils ont été nombreux à être condamnés avec des peines lourdes, en détention avec des majeurs, cela ne passe pas toujours bien, avec parfois des situations très graves. La plupart d'entre eux ont été reconnus mineurs par le juge à la fin de leur incarcération, qui a duré des mois. Un enfermement bien souvent ordonné sans prendre en compte les spécificités de ces jeunes cabossés par des parcours migratoires éprouvants et pour lesquels ils ne représentent souvent qu'un traumatisme supplémentaire.
Et pour continuer dans la chasse aux étrangers, c'est l'actualité, ça s'est passé... quand est-ce que ça s'est passé, cette évacuation là? Excusez-moi, je cherche la date, enfin c'est pas grave. Donc on a un communiqué qui date du 8 septembre, du droit au logement, et qui parle de cette évacuation du 1er au 4 septembre du parc André Citroën à Paris. Et donc ils font un appel parlant de l'évacuation de 1200 sans-abri, un piège d'État. Nous, associations, syndicats, organisations, collectifs signataires, dénonçons les conditions d'évacuation du campement de 1200 personnes sans abri installées dans le parc André Citroën du 1er au 4 septembre. Cette évacuation a été menée en présence du préfet de police de Paris et du préfet de région Île-de-France. Au fil des jours, les informations recueillies par les associations ont révélé l'exécution d'un véritable piège d'État. Samedi 4 septembre, 670 personnes sans abri sont montées dans des bus en toute confiance et ont été conduites dans différentes villes en région, sans leur accord et souvent contre leur gré, et en tout cas sans en avoir été informées. Les donneurs d'ordre se sont gardés d'informer les associations. À l'arrivée des bus, le piège planifié s'est refermé. La police les attendait pour contrôler les identités, fouiller les sacs et arrêter les personnes sans papier pour leur délivrer des convocations, des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière. Plusieurs dizaines de personnes ont été enfermées dans des camps de rétention. Beaucoup sont revenus en région parisienne depuis samedi soir à leurs frais malgré leur pauvreté afin de ne pas perdre leur emploi et ou maintenir la scolarité de leurs enfants. Elles sont de retour dans les rues. nous dénonçons cette vaste opération de basse police contre des personnes sans abri qui font valoir leur droit inconditionnel à un hébergement jusqu'au relogement. Or, l'État, en Île-de-France, dispose des moyens pour héberger plutôt que d'éloigner. Des locaux publics sont vacants, ainsi que 400 000 logements, selon l'INSEE. Mais l'État préfère satisfaire aux injonctions de l'extrême droite proférées lors de l'occupation de la place des Vosges, décourager les sans-abri, de faire valoir leurs droits et faire la chasse aux sans-papiers. Nous exigeons notamment la libération immédiate des personnes retenues en centre de rétention, une enquête publique sur cette opération de police, qui l'a mis en place, les effets, les auteurs, etc. Le respect du droit à l'hébergement jusqu'au relogement de toutes les personnes sans-abri, notamment des 1204 personnes du parc André Citroën, conformément à la loi. La régularisation de toutes les personnes sans papier et un premier accueil pour les réfugiés. La mise en œuvre de politiques publiques pour satisfaire le droit à un logement décent, stable, abordable pour tous et toutes. Réquisition, arrêt des expulsions, baisse des loyers, HLM, etc. En fait, le respect des droits fondamentaux. Et pour cela, il est appelé vendredi 10 septembre à une marche à 15h, place du Trocadéro. Donc oui, je vous rappelle que c'est à Paris et que le parc Citroën se trouve dans le 15e à Paris. Et un rassemblement aussi à 17h devant la préfecture de région de l'Île-de-France. Voilà. Alors ce que je voulais... Ah pardon, oui. Ce que je voulais dire en plus, c'est que cet appel est sous forme de pétition et il appelle les organisations ou les collectifs à signer. Et l'adresse humour, n'est-ce pas, c'est réquisition au pluriel, @protonmail.com. Et je crois qu'on va parler de
Protonmail. Mais je ne sais pas si on a vraiment le temps. Ouais, parce qu'on a une annonce à passer avant le...
Ouais, 54, 5 minutes. Non,
je crois qu'on parlera de la messagerie sécurisée, cryptée la prochaine fois.
Voilà,
du coup,
on en parlera une autre fois. Et donc là, l'appel est sur Protonmail, justement. Donc il y a une annonce tout de suite. C'est pour le 10, le 11, le 12 septembre. C'est un week-end de commémoration pour Idir, qui est mort à Corbas le 9 septembre 2020. Ça se tiendra donc à Lyon, à Brignais, sur 3 jours, avec différentes activités, documentaires, discussions, repas, barbecue et même un tournoi de foot. Donc il y a un an, Idir Médérès perdait la vie au mitard de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas dans des conditions suspectes. Pour commémorer son décès et continuer la lutte contre les violences pénitentiaires, eh bien, vous êtes invité à se retrouver aux événements suivants. Donc, vendredi 10 septembre, 18h30, à l'espace communal de la Guillotière, projection du documentaire En dehors de Grégory Lassalle, suivi d'une discussion avec le réalisateur. Ensuite, le 11 septembre, repas du midi convivial avec de la musique. Et le 12 septembre à 14h, un tournoi et barbecue à Brignais, 14 avenue du Stade. Brignais, c'est donc à côté de Lyon. Un événement donc qu'il faut suivre. Vous pouvez vous renseigner bien sûr sur internet association IDIR Espoir et Solidarité pour participer à ce week-end 10, 11, 12 septembre en mémoire à IDIR qui est mort à Lyon-Corbas.
Alors c'est Bruit de Tôle qui se termine, donc d'ici la prochaine émission dans 15 jours le 23 septembre, vous pouvez nous écrire si l'envie vous en prend. À Canal Sud, Bruit de Tôle, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, ou nous envoyer un mail à Bruit de Tôle, bruit au pluriel, de Tôle, D-E-T-O-L-E-S, @no-log.org. Et en attendant donc la prochaine mission, courage
la
et rage.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons. Les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons, alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle, l'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie, Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut. On est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce. Vivons ce que vivent les fleurs. Ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins. En attendant d'être assagi par l'âge, contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde. Il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire, chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Ouais.